consacrée aux otages. Et on terminera en studio avec Yaniv Nadler, représentant des Bracelets jaunes pour la France. Voilà. Alors, merci Eva.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J, restez informés. Écoutez Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Il est 10h, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau 10-11. Et tout de suite, on retrouve donc le journal d'Eva Soto. Eva, rebonjour.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Alors à la une de l'actualité, le 202e jour de guerre contre le Hamas et des terroristes qui ont bombardé hier le port humanitaire en construction au large de Gaza.
Un port destiné à accueillir et pourvoyer davantage d'aide à la population gazaoui. Une personne a été légèrement blessée alors qu'elle courait vers une zone protégée. Par ailleurs, ce matin, dans le centre de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont repéré deux terroristes qui tentaient de tirer des roquettes vers Israël. Elles les ont éliminés et détruit la zone de lancement. Au cours des dernières 24 heures, des avions de chasse et des drones de Tsahal ont frappé plus de 30 cibles d'organisations terroristes dans toute la bande de Gaza.
Et puis le Hamas a publié la vidéo d'un otage.
Celle de Hersh Goldberg, Pauline, le jeune israélo-américain, y apparaît pâle, amaigri et sa main semble amputée. Dans un message vraisemblablement dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages. L'État d'Israël n'a plus de temps à perdre, a commenté sa famille. Correspondance à Jérusalem d'Olivier Granilic.
Nous sommes ici aujourd'hui avec une prière pour tous les dirigeants des partis qui ont mené des négociations jusqu'à présent. Soyez courageux, profitez de ce moment et concluez un accord pour nous unir avec tous nos proches, mettre fin à la souffrance dans cette région, a déclaré le père du jeune otage. Et la maman de Hirsch a ajouté: Hirsch, nous avons entendu ta voix aujourd'hui pour la première fois depuis 201 jours. Et si tu peux nous entendre, nous te disons, nous t'aimons, sois fort et survie.
Notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic, à Jérusalem où dans la soirée des manifestants se sont aussi opposés à la police lors d'une manifestation pour réclamer un accord pour la libération des captifs. Des familles d'otages ont aussi bloqué cette nuit des camions d'aide vers la bande de Gaza. Selon l'un de ses responsables, le Hamas serait finalement prêt à relâcher 40 otages dans le cadre d'un accord avec Israël.
Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier avec des tirs de roquettes, mais la moitié des commandants du groupe terroriste ont été éliminés.
C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a été rendre visite au commandement de la région nord. L'objectif principal, c'est de permettre aux Israéliens du nord de pouvoir rentrer chez eux. 80 000 n'ont pas pu le faire depuis le 7 octobre à cause des attaques permanentes du Hezbollah. Tsahal a frappé pour la seule journée d'hier environ 40 cibles de ce groupe terroriste au sud Liban.
Sur le front sud, le chef d'état-major de Tsahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah.
Au Caire, le général Herzi Halevi et Ronen Bar ont rencontré le chef des renseignements et d'autres responsables égyptiens. Rafah est tout au sud de la bande de Gaza et le Caire rejette toute entrée sur son territoire de Palestiniens déplacés à cause des combats. Par ailleurs, concernant les accusations sur un charnier découvert à l'hôpital Nasser de Khan Younes après la fin de l'opération de Tsahal, il s'agit d'une campagne de désinformation pour délégitimer Israël, a commenté Tsahal. L'armée israélienne qui a publié les preuves que les tombes avaient été creusées par les autorités gazaouis elles-mêmes il y a quelques mois.
La loi d'aide des États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat.
17 milliards de dollars seront destinés à Israël et 9 à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères israélien a remercié le président américain. Notre alliance est à toute épreuve, s'est félicité Israël Katz sur le réseau social X. Cette enveloppe de 95 milliards comprend aussi des aides à Taïwan face à la Chine et à l'Ukraine. Kiev, qui commencera à recevoir de nouvelles armes dans les prochains jours, a annoncé le locataire de la Maison Blanche.
En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris.
Exactement sur le même modèle que les facs américaines, ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole par rapport à ces mouvements anti-israéliens et antisémites sur les campus US. D'après Benjamin Netanyahou, ça rappelle ce qu'il s'est passé dans les années 30 en Allemagne.
En France, une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte hier après l'arrestation d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie.
Suspecté d'avoir voulu commettre un attentat djihadiste pendant les JO de Paris, le jeune homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. L'adolescent a été repéré grâce à des messages inquiétants sur une chaîne Telegram. Il cherchait à trouver de quoi confectionner une ceinture explosive en affirmant vouloir mourir en martyr. Les enquêteurs ont retrouvé chez lui un serment d'allégeance à Daesh. Maître Muriel Waknin de l'OGIO ce matin sur Radio J avec Christophe Barbier.
Le dernier projet, c'est un mineur de 15 ou 16 ans qui s'est mis en tête d'organiser un attentat.
À Marigny, en Haute-Savoie.
Exactement. Donc on voit bien pourquoi le législateur a prévu cette peine aussi lourde et pourquoi il est important de faire attention aux propos que l'on peut tenir quand on est une personnalité publique ou lorsque l'on est sur les réseaux sociaux et que la parole se démultiplie de manière exponentielle.
Maître Muriel Waknin Melki de l'OJE par rapport à l'alourdissement des peines pour apologie du terrorisme.
Merci Eva Soto, on vous retrouve à 10h30 pour le rappel des titres.
Le 10-11 de Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'Art et de Culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'Art et de Culture est sur culture-juive.fr.
Radio J. Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Gutmann.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Les rendez-vous de l'écuge.
Lise Gutmann.
Radio J.
Jean-François Strouve, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Les rendez-vous de l'écuge, c'est l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Donc Jean-François, tu es directeur adjoint de l'écuge, rebonjour, et puis bien sûr Moadim Lesimcha.
Bonjour Lise, et selon la tradition, on répond Ragi Mouzmanim Lesasson.
Alors tu souhaitais commencer par quelques mots sur Pessah avant de parler du programme de l'écuge.
Oui, Pessah, c'est un moment essentiel du calendrier juif. Il célèbre l'événement qui est la pierre angulaire d'un triptyque dont on ne mesure pas toujours toute la dimension. L'identité d'Israël, ce sont trois éléments. Le peuple d'Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël. À Pourim, par exemple, qui s'est déroulé il y a un mois, c'était en Babylonie que ça se passait, dans le texte duquel il n'y a pas le nom de Dieu. Le seul élément du triptyque présent au moment de Pourim, c'est le peuple d'Israël. Pessah marque la libération du peuple juif pour qu'il puisse recevoir la Torah d'Israël et se rendre dans le pays d'Israël. Là, il y a les trois éléments. Mais le passage où nous disons « Ve'ish et Hamda » se réfère à la longue liste des persécutions, génération après génération, du peuple juif et remet l'importance du peuple au cœur de nos préoccupations encore plus cette année. Il entre en résonance avec le sort de nos otages dans les geôles des terroristes à Gaza. Nous avions mis chez nous à la maison un sac « Bring them home », »,« Ramenez-les à la maison », sur une chaise restée vide, réciter la prière pour la libération des otages initiée par le grand rabbin là-haut et ressentir une profonde tristesse lorsque nous avons accompli tous ces rites liés à nos sœurs et à nos frères à Gaza. À notre table, il y avait la Haggadah de Tzahal offerte par Gil Tayeb, Zichrono Livracha, au cours d'un des Sédarim passés ensemble en Israël. Et je vois que Actuji lui consacre un numéro spécial.
Oui, on va en parler dans quelques instants.
Et je sais que tu vas en parler avec Alexis Lacroix dans quelques instants.
Oui.
Dernier point, le second jour de Pessah marque le démarrage du compte de l'Omer, une mesure des céréales qu'on apportait chaque jour quand le temple de Jérusalem était debout. Entre le deuxième jour de Pessah et Shavuot, on compte 49 jours. Il faut aussi continuer à compter avec la même ferveur le nombre de jours de captivité de nos otages. Ce soir, nous compterons le troisième jour de l'Omer et 202 jours de captivité des otages à Gaza, toujours avec autant de ferveur pour Pessah,
mais oui,
toujours avec autant de ferveur pour le soutien à nos otages.
Je crois que vraiment, cette prière pour les otages, en hébreu et en français, elle a eu lieu dans tous les sédarim organisés.
Aussi.
On l'a tous fait, c'est incroyable. Et on avait tous à cœur de le faire.
Absolument.
Et j'ai vraiment, on continue, quoi.
Absolument.
Alors, donc, selon toi, en fait, le peuple est l'élément prééminent par rapport à la terre et à la pratique.
Oui, absolument. Et c'est même pour cela que nous avons pu adapter notre sédère à ces éléments très humains. On n'imagine pas,
mais
par
oui,
exemple, dans le rituel de Kippour, ajouter des choses, ça aurait été compliqué. Mais sur Pessah, l'élément prééminent, c'est ce sont les éléments humains. Donc, c'est pour ça qu'on a pu intégrer tous les faits liés aux otages dans notre seder.
Mais parce qu'aussi, c'est un récit humain, la Haggadah.
Absolument.
C'est pas une prière, c'est un récit.
D'être
et
humain,
c'est toute
absolument
la différence. Alors, si on poursuivait par le programme de l'écuge Jean-François, on va voir qu'il est lui aussi en phase avec des grands moments du calendrier israélien. On connaissait Zikaron Basalon, on connaissait Ivrit Social Club, et à l'écuge, vous avez réalisé ou vous allez réaliser la synthèse des deux.
Alors, ça s'appelle Tikva Ubnia, l'espoir et la construction. Le 2 mai prochain, au fameux Ivrit Social Club que vous connaissez, Revital va explorer le thème de l'espoir et de la reconstruction à l'occasion de Zikaron Basalon. Alors, Zikaron Basalon, c'est une organisation, mais c'est surtout un terme générique,
oui,
qui précède cette organisation. Et c'est notre équipe, sous la houlette de Revital, qui organise cet événement.
Alors, c'est la, ouais, mémoire dans le salon, et c'est un moyen de faire témoigner les survivants de la Shoah face aux jeunes générations.
Absolument, et Revital va faire ça avec beaucoup de cœur, comme d'habitude. Je rappelle qu'il y a deux sessions, une à 18h30 pour les intermédiaires et une à 20h30 pour les avancées et les perfectionnements. Perfectionnement, en général, c'est des gens qui sont déjà pratiquement totalement hébraïsants.
Oui.
Et donc, c'est organisé toujours en partenariat avec nos amis, donc par les CUJ, mais en partenariat avec nos amis de l'Organisation Sioniste Mondiale, que nous saluons amicalement ici.
Et à qui on souhaite, Moadim Lesimcha. Le même soir, une belle soirée d'encouragement aux jeunes talents du jazz. Ça sera quand, ça?
Ouais, alors c'est donc le 2 mai à 20h30. Tout le monde connaît déjà la formule, ouverture du bar à 19h30. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas un grand groupe de jazz connu, mais 5 groupes de jeunes qui vont concourir ensemble pour le prix René Urtreger avec un jury de prestige. Soyez dans la salle, participez, manifestez-vous, c'est totalement gracieux. Faut juste vous inscrire avant pour
mais
qu'on
c'était
puisse
déjà le cas l'année dernière.
Ah bah oui, c'est le
mais
deuxième
oui,
la
souviens.
Deuxième session du prix René Urtreger. C'est très bien parce que ça permet à des jeunes talents de faire découvrir ce qu'ils savent faire et ceux qui auront gagné le prix René Urtreger seront invités à participer à une soirée jazz à l'écuge en première partie d'un orchestre déjà bien bien confirmé, quoi.
Voilà, donc faut absolument y participer et ce sera le 2 au soir, hein.
Absolument.
Voilà. Ensuite, nous célébrerons le centenaire de Franz Kafka avec une pièce de théâtre qui lui est dédiée à l'écuge, bien
et
sûr.
Et oui, donc comédie de K. Une pièce construite à partir d'une sélection des fragments narratifs de Franz Kafka, issus de la dernière traduction des œuvres complètes, publiée à la Pléiade en 2018 et 2022. Donc le dimanche 5 mai à 18h, comédie fragments en zigzag de Franz Kafka. Donc c'est à l'occasion, comme tu le disais, de son centenaire. Donc pour les amoureux de l'œuvre de Franz Kafka, c'est le moment de venir et d'y participer.
Alors, ce sera donc le 5 mai à 18h.
Bien sûr.
Vous notez, hein, vous qui nous écoutez.
Ouais. Sinon, on vous dira l'adresse du site à la fin, comme d'hab, pour que vous puissiez vous repérer.
Exactement. La construction de la mémoire de la Shoah dans la société israélienne. Ça va être une conférence en ivrit kala, en hébreu facile, sur Zoom, animée par Ronen Gourevitch, le soir même de Yom HaShoah.
Alors, Ronen Gourevitch, qui n'est pas simplement un de nos brillants enseignants, qui donne des cours au plus haut niveau, niveau 12, hein, perfectionnement 3.
En effet,
hein,
donc, oui.
Il donne des cours à des gens qui sont quasiment totalement hébraïsants, et il est aussi historien, et il a fait la synthèse des deux lui aussi, c'est-à-dire qu'il donne des séances, des conférences historiques, et il est évident que l'engagement que nous avons sur la Shoah, au moment même de Yom HaShoah, hein, ce sera la période de Yom HaShoah, c'est important que ça se manifeste chez nous sous la forme toujours de l'hébreu au centre de nos préoccupations et dans une conférence en ivrit kala avec des traductions pour les mots les plus complexes pour que quelqu'un qui est, disons, d'un niveau moyen puisse suivre. Il n'y a que les débutants finalement qui pourraient pas être suffisamment en connaissance du vocabulaire, qui auraient des difficultés à suivre. Mais dès le niveau 3, disons, on peut y aller, et puis vous apprenez des tournures de phrases, vous entendez de l'hébreu, vous progressez. L'hébreu, c'est la langue du peuple juif.
C'est dit, hein, voilà. Alors, dans le cadre des spectacles jeunes publics, une pièce, parce qu'on n'oublie pas les jeunes, pour les 3-8 ans, trop mignons.
Ouais.
De quoi s'agit-il ?
Alors, tu sais comment on fait ? On met un tapis devant.
Oui, bien sûr.
Les petits bouts s'asseyent, ils participent. Quand ils veulent sortir, ils sortent. C'est toujours très court parce que les enfants tout petits peuvent pas suivre un spectacle longtemps.
Non, bien sûr.
Donc, c'est Niva et Yosef, que tout le monde connaît, qui a déjà fait plusieurs présentations. Et là, on rencontre le rat, la mésange et le jardinier. C'est le 12 mai à 17h, la technique est toujours la même, les adultes payent, les enfants c'est gratuit, ils sont invités, et donc bien évidemment, comme pour le reste, c'est toujours mieux de s'inscrire avant.
Oui, il vaut mieux.
Ouais,
et puis, enfin, un centre qui propose des contes et des spectacles pour les petits, on n'a pas suffisamment dans la communauté. Et je crois que l'ÉCUJ a pris le bon créneau, hein, la transmission.
Ouais, et puis c'est
tellement si important
de voir ces enfants à découvrir des contes juifs tout au long de l'année.
Bien sûr,
c'est sympa, c'est
bien
une ambiance sympa.
Alors, le monument qu'on attendait tous, Nous vivrons, de Johann Svar. La semaine dernière, je parlais de ton engagement avec le bonnet orange que tu portes ce matin, que tu as transformé aussi en casquette et en kippa orange. Et la planche que Johann Svar a consacrée à ton bonnet est dans Nous vivrons.
Alors, très ému quand j'ai découvert ça. Effectivement, il me qualifie, dans la page de couverture, il me qualifie de juif au bonnet. Donc, j'assume.
Bah oui.
Donc, oui, c'est un bonnet orange aux couleurs des cheveux des enfants Bibas, Ariel et Kfir. Donc, je porte toujours, le bonnet, la casquette ou la kippa. Vu le retour du froid, j'ai remis le bonnet. mais la couleur reste la même.
Sur quoi tu as bien fait.
Donc, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des juifs. Publié aux Arènes BD, une rencontre avec Johann Svar animée par Chaim Musikant dans la série des BD à l'ÉCUJ le lundi 13 mai 2024 à 19h30. C'est un sujet grave, c'est un sujet important. Ça, c'est un livre qui est exclusivement sur la situation du 7 octobre et ses suites. Et c'est le soir de Yom HaZikaron et c'est une manière de célébrer le Yom HaZikaron pour les 1200 morts initiaux du 7 octobre, plus les soldats qui sont tombés entre-temps en luttant contre les terroristes. Donc, on est dans cette ambiance et je sais que...
C'est une belle idée d'inviter Svar qui monte au créneau depuis le départ.
Avec un courage inouï.
Et ce n'est pas le cas de tout le monde, donc il mérite plus que largement qu'on mette son travail à l'honneur. Donc, pour ça, on vous en prie, vous réservez à l'avance.
Hein,
c'est hyper important.
Et vous pourrez acheter la bande dessinée sur place.
Et il dédicacera.
Et il dédicace pendant une heure, hein, parce qu'il fait un dessin sur chaque livre.
C'est donc, vrai. Voilà. Il est incroyable. Et on lui souhaite bonne fête à Johann Spahn et à toute sa famille. Alors, bonne fête de Pessard. Cela se termine.
Dimanche soir, on rentre en fête pour le dernier jour de Pessard.
Voilà.
Donc, Rag Sameach, Moadim les Simcha à toutes et à tous.
Alors, pour ce programme, un site.
Ecuge.fr.
Un téléphone.
01 53 20 52 52.
L'adresse.
119 rue Lafayette. Et juste à Paris.
Voilà, et juste avant qu'on se quitte, je voulais féliciter à Kiestamos qui a fait à l'Ecuge un deuxième céder de Pessard mémorable.
Alors, et comment on dit bonne voilà. fête en
Pessard judo. Allegre.
Voilà.
Merci Jean-François.
Merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, Alice.
Au revoir.
Au revoir.
Radio J.
Votre programme revient dans moins d'une minute.
Radio J. 15h-16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invitée à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux. Donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, bonjour. Merci
bonjour
d'être Lise. Avec nous ce matin.
Bonjour,
et Rag Sameach. Boker Tov.
Moadim les Simcha.
Moadim les Simcha. Alors, un numéro spécial, actualité juive, avec à la une notre ami Gilles Taïeb, 1957-2024. Gilles qui nous manque tellement. Et un hommage sur plusieurs pages, plus que mérité, Israël, la France et le peuple juif, les combats de sa vie, c'est une édition hommage.
Oui, une édition hommage qui nous est apparue comme une évidence, étant donné, un, la commotion qu'a suscité sa disparition, et deux, l'immensité de son œuvre en faveur de la communauté juive française, mais aussi bien sûr en faveur d'Israël, on va entrer dans le détail si vous voulez. C'était un militant exemplaire au sens que Rafi Marciano dans sa petite contribution a donné, et d'ailleurs c'est à l'unisson, c'est-à-dire toutes les sensibilités sont représentées depuis le grand rabbin de France jusqu'à Gilles William Goldnadel. Il y a une sorte d'unanimité pour dire que Gilles Taïeb était un gadol, non pas un gadol de la tradition, en tout cas pas prioritairement, mais un grand de la communauté. Il a illustré à merveille et avec j'allais dire une haute conscience en quelque sorte des enjeux les luttes, les combats d'un militant communautaire exemplaire sur plusieurs décennies. On connaît évidemment ses engagements pour les Hayalim, ses engagements aussi pour distribuer des lunettes dans les villes du sud d'Israël, qui sont des villes défavorisées, voire même pauvres carrément, disons-le simplement. Et puis son soutien sans relâche à la légitimité tellement contrebattue aujourd'hui de l'existence de l'État d'Israël. Ajoutons à cela, et vous le connaissiez, comme beaucoup d'entre nous,
oui, très bien.
Vous connaissiez, chère Lise, c'était un homme d'une profonde gentillesse, il illustrait à merveille ces valeurs proprement juives que sont le chesed, hein, ce mélange de gentillesse et de compassion qui lui était propre, et je crois que de ce point de vue-là, au-delà de l'émotion, nous avons perdu une personne qui était une personne de très grande qualité, et donc ça
disparaît. Voilà, et sur laquelle...
Et sur... le meilleur habib dans nos colonnes hein, laisse une béance immense au-delà de la tristesse que chacun peut ressentir. Hein, c'est-à-dire, c'est une béance objective aujourd'hui dans un moment où nous avons plus que besoin de combattants de la vérité.
Alors, il nous manque déjà énormément. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. J'ai envie de rajouter, c'était un véritable mensch. Donc, un hommage plus que mérité.
C'était un véritable mensch si on nous passe cette expression issue du monde ashkénazo-yiddish.
Oui.
Pour qualifier le juif tunisien fidèle, d'ailleurs qu'il était à ses origines tunisiennes,
oui.
Il exaltait souvent dans les conversations privées la Tunisie, et justement c'est l'âme tunisienne qui se reflète aujourd'hui dans le judaïsme français, par un aspect, puisqu'il qu'il y a évidemment beaucoup de personnes de français juifs qui sont d'origine tunisienne.
Bien
et
sûr.
Il était de cela, et c'est vrai qu'il était d'une fidélité également à cet héritage culturel singulier. Mais, comme le dit très bien Rafi Marciano dans notre dossier, ses deux passions fondamentales, c'était la France et Israël. Il les conjoignait, il ne les opposait pas, et ceci explique aussi, évidemment, l'admiration que beaucoup d'entre nous lui portions, par-delà tel ou tel aspect de divergence sur tel ou tel enjeu politique, mais c'est secondaire par rapport à l'immensité de sa stature, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous ressentons tous à la fois une peine et un vide immense.
Bien sûr, c'est le moins qu'on puisse en dire.
Et alors on a retrouvé, oui, grâce à notre ami Alain Azria et à Yael Semaba, une série de photos justement qui, dans le dossier, illustrent concrètement, charnellement, ses engagements, et
oui,
ils sont multiples, ils sont très généreux, ils étaient toujours faits sans arrière-pensée aux côtés de sa femme, Karen, bien sûr, à laquelle, ouais, nous pensons beaucoup.
On l'embrasse, Karen, bien sûr. Et les enfants. Voilà. Et ses
et
enfants.
Leurs trois enfants merveilleux, comme elle l'a dit, d'ailleurs, dans un message tout à fait saisissant au moment de la mort de son époux.
Alors, également un chapitre important, évidemment, de façon évidente, consacré à Israël, l'État juif répond au feu du régime des Mollahs en frappant la base militaire d'Ispahan, mais
voilà,
pas que.
Bah, c'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes, si vous voulez, dans une confrontation militaire, mais qui est quand même, j'allais dire, à bas bruit. Vous voyez qu'il n'y a pas, si on résume, des deux côtés, il n'y a pas de volonté de céder à ce qui ressemblerait à une forme d'escalade, suscitant le risque que beaucoup de chancelleries agitent, et notamment la France, d'un embrasement de la région. Pour autant, il n'est pas possible pour l'État juif, c'est une évidence, c'est pas la peine de le montrer, il n'est pas possible pour l'État juif de ne pas riposter d'une façon ou d'une autre, la plus intelligente possible, la plus adéquate possible, la plus réfléchie possible, à l'attaque massive que le régime islamique des Mollahs a lancé contre le sol israélien dans la soirée du 13 avril.
Ça n'est pas bien sûr.
Et donc le choix qui a été fait, probablement, on l'imagine, c'est d'ailleurs ce que suggère fortement Pascal Zonshine dans son excellent papier, après des tractations avec les Américains notamment, c'est de faire ces mesures ciblées. Or, évidemment, qu'est-ce qu'il y a en ligne de mire? Vous voyez, quel est le second rideau? Le premier rideau, c'est l'attaque du 13 avril. Mais quel est le second rideau qui, au fond, à juste titre, préoccupe au sommet de l'état-major et, disons, du personnel politique, des élites politiques israéliennes? Bah, c'est l'accession probable, dans les mois qui viennent, de cette puissance de seuil, comme on dit dans le jargon des spécialistes du nucléaire, à la possession de la bombe atomique en bonne et due forme. D'ailleurs, on ne sait pas exactement où en est le régime islamique de Téhéran. Mais évidemment, cette perspective-là est une perspective angoissante pour l'État d'Israël, non pas tant parce que Israël pourrait être rayé de la carte du jour au lendemain. Évidemment, Israël dispose heureusement de moyens de dissuasion tout à fait importants. En revanche, cela modifierait à l'échelle de la région des rapports de force déjà tout à fait précaires et donnerait un avantage, j'allais dire, de terreur à ce régime islamique qui a montré d'ailleurs que la terreur était un moyen de gouvernement chez lui assez fondamental. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, l'État d'Israël partage avec une partie de la communauté internationale arabe sunnite les mêmes préoccupations, empêcher coûte que coûte ce régime terroriste d'accéder à la puissance nucléaire qui modifierait de manière dramatique les rapports de force dans la région en donnant un avantage à l'Iran sur des puissances qui potentiellement sont des alliés solides d'Israël. On pense notamment, bien sûr, aux pays du Golfe.
Bien sûr. Alors, très vite, je sais que vous êtes un peu pressé ce matin. Quelques mots dans le journal sur Yom HaShoah.
Oui, c'est un moment, si vous voulez, très important. Claude Bocherberg consacre d'ailleurs un très bel article. Nous avons plus que jamais, dans ce contexte justement où il y a des menaces existentielles grandissantes sur l'État d'Israël, le besoin de nous rattacher à cette chaîne de transmission qui repose sur la mémoire du plus grand massacre que le peuple juif ait subi dans son histoire, à savoir la tentative d'extermination complète du peuple juif par les nazis, tentative qui, on le sait évidemment, a quand même abouti en grande partie. C'est une évidence que de rappeler cela. À chaque fois que le peuple juif, en quelque sorte, si vous voulez, est confronté à des menaces existentielles, il doit faire masse, il doit faire bloc et les affronter, parce que les défis sont souvent des défis existentiels, de simple survie. C'est évidemment le sens conscience renouvelée aujourd'hui de la mémoire de la Shoah au regard de l'actualité. C'est une évidence.
Eh bien, merci pour tout cela, cher Alexis Lacroix. On vous merci retrouve vous, la semaine prochaine avec Laurent Cohen-Coudard.
Et on sera en studio avec vous, naturellement.
Bien sûr. Et actualitéjuif.com pour s'abonner, pour soutenir. C'est si important pour avoir de vraies infos et des analyses tout en profondeur. Grâce à vous, merci et bonne fin de fête de Pessah à toute merci. L'équipe d'ActuJ. Au revoir.
Craque sa mère à vous aussi.
Craque sa mère. Merci.
Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Liz Goodman.
Radio J.
Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 202e jour de guerre contre le Hamas et des terroristes qui ont bombardé hier le port humanitaire en construction au large de la bande de Gaza, un port destiné à pourvoyer davantage d'aide à la population gazaoui. Une personne a été légèrement blessée alors qu'elle courait vers une zone protégée. Au cours des dernières 24 heures, des avions de chasse et des drones de l'armée de l'air israélienne ont frappé plus de 30 cibles d'organisations terroristes dans toute la bande de Gaza. Et le chef d'état-major de Tsahal ainsi que celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah. Rafah est tout au sud de la bande de Gaza et le Caire rejette toute entrée sur son territoire de Palestiniens déplacés à cause des combats. Le Hamas a publié hier la vidéo d'un otage, celle de Hersh Goldberg Pauline. Le jeune israélo-américain y apparaît pâle, amaigri et sa main semble amputée. Dans un message dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages, a commenté sa famille. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier avec des tirs de roquettes. Mais la moitié des commandants du groupe terroriste ont été éliminés selon le ministre de la Défense Yoav Gallant. Tsahal a frappé pour la seule journée d'hier environ 40 cibles du Hezbollah au sud Liban. En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris sur le modèle des facs américaines. Ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza.
Merci Eva Soto. On vous retrouve à 11h sur radioj.fr et DAB+ pour un nouveau jour.
Radio J.
Votre programme revient dans moins d'une minute.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Liz Goodman.
Radio J.
Richard Prasquet, bonjour. Merci d'être avec nous en ce jour, premier jour de Chol HaMoed Pessah. Exceptionnellement, d'habitude, je crois que c'est le mercredi que vous êtes sur Radio J. Je vous remercie du fond du cœur d'être avec nous ce matin. Vous allez évoquer pour nous, Richard, les otages et la fête de Pessah. Je vous laisse la parole.
Merci Lise, non c'est le jeudi.
Ah matin, le jeudi, pardon,
matin,
pardon.
Mais à 9h10, oui. C'est pas...
Voilà, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, oui.
Cette année, la nuit du Seder de Pessah fut vraiment différente des autres nuits. Dans beaucoup de foyers juifs dans le monde, un siège était vide parmi les invités et ce siège n'était pas destiné au prophète Élie, le précurseur du Messie. Je suppose que beaucoup de familles d'otages n'ont pas eu le cœur à célébrer. S'appesantir sur les opinions divergentes de Rabbi Yossé, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiba quant au nombre exact de plaies qu'ont subi les Égyptiens, alors qu'on ignore si l'enfant, l'époux ou le père sont encore en vie et s'ils le sont, dans quel état ils se trouvent, tout cela réclame une faculté de mise à distance qui n'est pas à la portée du commun des mortels. Et puis, il y a ceux dont un être cher a été tué ou gravement blessé, ceux ou celles, surtout celles, qui ne pourront jamais oublier les heures abominables. Il y a ceux qui ont vu leur quotidien bouleversé. Et il y a les familles de soldats qui vivent dans l'inquiétude. Il y a nous tous, pour qui le 7 octobre restera une date noire, et pour qui la fête de Simchat Torah et le Yom HaShoah, qui adviendra dans quelques jours, ces deux moments de joie et de tristesse du calendrier, se grefferont désormais d'une signification supplémentaire et tragique. Hier 24 avril a été diffusée par le Hamas la vidéo d'un des otages. Un extraordinaire soulagement pour sa famille qui le voit vivant. Hersh Goldberg-Pauline, 24 ans, a été enlevé et gravement blessé au festival Nova. Dans un texte probablement écrit par ses geôliers, il critique durement Benjamin Netanyahou, qu'il rend responsable de l'échec des négociations, de la mort lors de bombardements de 70 otages et auquel il demande de démissionner. La mère du jeune homme, Rachel Goldberg, est une israélo-américaine qui a rencontré les dirigeants du monde, dont le pape et Joe Biden, pour défendre la cause des otages et qui a été nommée par le magazine Time parmi les 100 personnes de l'année. C'est dire que le choix de présenter une vidéo de son fils pendant la fête de Pessah est un coup médiatique habile du Hamas, une arme de pression qui n'améliorera pas, surtout aux États-Unis, l'image d'un premier ministre israélien fréquemment accusé de se désintéresser du sort des otages et dont la relation avec leur famille est déjà pour le moins houleuse. Seuls 3 otages ont été directement libérés par l'armée israélienne et des informations alarmantes que cette vidéo semble confirmer circulent sur le nombre de survivants. C'est à cause de la position maximaliste du Hamas que les négociations sont au point mort. Mais ce sont les Israéliens qui en seront mensongèrement rendus responsables, comme ils le seront bientôt, d'avoir provoqué la mort des otages et dès maintenant de commettre un génocide, d'organiser une famine et de massacrer des prisonniers. De fait, la situation des otages, cause majeure de la guerre, est passée au second plan des exigences internationales au regard de la souffrance de la population gazaouie. Et bientôt peut-être, on ne parlera d'eux que comme de simples prisonniers, car le mot otage pourrait offenser le Hamas. Israël, qui est en lutte contre un ennemi impitoyable et puissant, l'islamisme, rencontre dans le monde une déferlante d'hostilité, là même où il devrait trouver un soutien. La tentation existe d'en faire un autre épisode de la litanie des ennemis du peuple juif, celle de Hadgadia qui clôture la cérémonie du Seder. Mais plutôt que de ressasser cette conclusion amère, il faut rappeler que Pessah est avant tout la fête de la liberté. Cette liberté, les Juifs de la diaspora ont d'autant plus les moyens de la revendiquer naturellement dans leur pays qu'il existe un État du peuple juif, l'État d'Israël.
Merci. Oui. Merci Richard Prasquet pour ce billet consacré aux otages et à Pessah. Et bien sûr, on vous retrouve dès jeudi prochain et on vous souhaite de bonnes fêtes de Pessah.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Radio J.
Les invités de Lise Goodman.
Voilà, nous parlons beaucoup des otages en deuxième partie de ce 10-11 sur Radio J. Et c'est normal, de même qu'il était normal de faire pendant les CEDER ces prières pour les otages qui ont été dites, je pense, dans tous les CEDARIM de France et de Navarre. Et j'ai le plaisir, autour de cette thématique, de recevoir et d'accueillir en studio Yaniv Nadler, représentant des Bracelets jaunes pour la France. Yaniv Nadler, bonjour.
Bonjour, Lise.
Alors, Moadim Lesimchin, je crois que c'est le moment de se le dire. Donc, vous représentez les Bracelets jaunes pour la France. Vous travaillez avec le Forum des familles d'otages en Israël. Comment est né ce projet des Bracelets jaunes et pourquoi ?
Alors, et le Forum des familles d'otages a été créé le lendemain, effectivement, de l'attaque de 7 octobre. Et donc, et nous ici, en France, il y a eu, idem, le lendemain de l'attaque, une groupe qui a été créée par quelques personnes pour aider aux Israéliens, du coup, qui étaient soit coincés ici, soit devaient effectivement quitter Israël, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu 300 000 personnes déplacées, des réfugiés, d'une certaine manière, dans leur propre pays, ou qui devaient partir, ils n'avaient plus de maison. Donc, ça a été créé pour les aider. Et par ce groupe, effectivement, il y a eu un autre groupe qui est sorti, et au moment, effectivement, de la marche contre l'antisémitisme.
Oui.
Et, mais avant ça, et le Forum des familles d'otages a voulu créer et effectivement des groupes dans le monde qui puissent porter la parole des
leur otages. Parole, la parole des otages,
la parole des otages,
la parole des familles aussi.
Exactement. Et donc Monsieur Prasquet qui vient, il a dit, il parlait du risque,
oui,
d'oubli des otages.
Mais oui.
Et ce risque est réel. Et donc on s'est mis en contact effectivement avec eux. Au début, c'était une volonté et de faire, il y a eu donc, je dirais, une sorte de déshumanisation par l'attaque. C'était une attaque tellement et atroce, une volonté, on sait aujourd'hui, vraiment de déshumaniser les personnes, le peuple. Et donc, il y a eu une volonté, plus il descendait bas, nous, on cherchait plutôt monter vers le haut, c'est-à-dire,
oui,
par la culture.
Oui.
Et une des premières actions de Forum des familles d'otages était un film. Et des œuvres d'art qui ont été créées par des artistes très connus, et Uri Gerst, Ron Arad, Landon, je ne me souviens pas de tous les noms.
Oui, bien sûr.
Mais il y a eu un film qui a été créé avec leurs œuvres qui ont été faites dans les mois suivant l'attaque. Et on a voulu les projeter sur des bâtiments, sur des écrans, les musées à Paris, etc.
Et je crois que ça n'a pas été facile.
C'était un échec.
Oui.
Et on ne voulait pas...
Oui, parce que les gens n'ont pas voulu accueillir ce film. Alors justement, ce film, on peut le voir quelque part ?
Oui. Enfin, oui. Il faudra qu'on les donne, effectivement, personne. On n'a pas pu le... Il est sur YouTube.
Il est sur YouTube, voilà. Oui, mais c'est important. Sous quel nom ?
Et désolé, mais là, je me rappelle
vous
pas.
Peut-être film des familles d'otages ou quelque chose comme ça.
Des familles d'otages, on peut trouver effectivement ce film.
D'accord. Donc c'est un film important, mais qui n'a pas réussi à passer en France. Et vous avez essayé.
Il a été projeté à New York.
Oui, mais pas à Paris.
Non.
Malheureusement. Bah, peut-être que ça va se faire encore. Donc ça, c'était votre premier projet. Exactement. Il y en a eu d'autres se sont réalisés. Moi, je suis allée à au moins deux des projets sans trop vous connaître. Je voudrais quand même savoir les bracelets jaunes. On voit beaucoup de gens autour de nous qui portent un bracelet jaune, un ruban jaune. Pourquoi ?
Alors, d'abord, le symbolique effectivement de bracelets jaunes, c'est la couleur effectivement jaune et des bracelets qui ont été portés, ça c'est relativement récent, et c'est pour rappeler ce manque, cette absence de ce qu'on aime et l'attente de leur retour. Et une des histoires connues par rapport la couleur, enfin c'est le ruban jaune qui est devenu
bien sûr
bracelet. Et c'est, on parle d'une femme qui a promis à son mari d'attacher un ruban jaune à l'arbre devant leur maison, et que le jour où, quand il rentrera, quand il verra le ruban, il sait qu'il est attendu, qu'il sera le bienvenu.
Oui.
Et voilà, c'est ça, en fait, le symbole de
le symbole. Alors la couleur jaune, elle est très présente quand on commémore. Je rappelle juste que tous les 19 avril, du temps de son vivant à Varsovie, Marek Edelman traversait la ville avec ses amis en portant des jonquilles. Voilà, juste un exemple.
C'est tout à fait c'est le symbolique de cette couleur.
De cette couleur. Voilà. Et c'est si important.
Exactement. Et donc la journée, quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme, un groupe de personnes a créé un groupe sur WhatsApp, Hagit, qui l'appelait les bracelets jaunes parce qu'elle a acheté une bobine.
On la salue au passage, oui.
Voilà, elle a acheté une bobine
de ruban jaune
qu'elle a distribuée aux gens qui venaient avec nous pour s'identifier, pour dire voilà, nous on est là aussi pour rappeler, il y a l'antisémitisme, mais on est là aussi pour rappeler, pour montrer les visages des otages.
C'est lié, c'est indubitablement lié, et c'est important. Donc vous étiez là à cette manifestation pour l'antisémitisme, mais vous avez créé d'autres événements depuis. Je pense entre autres à côté du musée du Louvre, où j'étais.
Par exemple,
j'étais pas la seule, Dieu merci.
Tout à fait. Et c'était pour la journée contre la violence faite aux femmes.
Oui.
Et donc, on voulait rappeler
Il y avait des porte-manteaux avec des vêtements de femmes également étalés par terre. Vous faites beaucoup dans le symbole.
On est dans les symboles, dans les installations, on est dans la culture, justement, dans quelque chose qui peut interpeller les gens. C'est la raison pour laquelle on est dans la rue. On est, c'est important pour nous d'être dans des endroits où les gens passent. Il y a eu cette action-là justement devant la colonnade du Louvre, devant la mairie du premier arrondissement, et le maire qui est venu d'ailleurs.
Oui, en soutien, bien sûr.
Tout à fait. Et donc, par la suite, on était aussi à la place du Palais Royal au moment des fêtes de Noël et des Hanouka. Pour éclairer leur chemin vers les retours. Donc, notre idée, c'est de faire des actions qui sont dans la rue, parmi les gens, quand les gens sont là et qu'ils voient, pour rappeler les visages. Et on a appelé effectivement le jour de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et on a rappelé effectivement les organismes féminines, justement leur silence. Et notre première action, c'était pour les enfants. Et on est allé ensuite, on a fait une action avec des peluches et qu'on a ensuite amené à une délégation, effectivement, de l'UNICEF pour demander qu'ils s'occupent de nos enfants, qu'ils nous donnent symboliquement, qu'ils donnent les peluches, effectivement, à nos enfants.
Ouais. Rien n'est moins sûr, mais bon, vous avez très bien fait de le faire.
C'est symbolique. Voilà,
bien sûr.
C'est symbolique. On essaie de passer par le symbolisme
pour qu'on n'oublie pas les otages et pour mettre, en fait, d'après ce que j'ai compris, vous créez des actions de rue. Justement pour que les passants puissent dire « Ah oui, ces otages, c'est vrai, on se souvient, c'est important. »
Tout à fait, tout à fait.
En fait, vous faites comme en Israël.
Et En fait, c'est justement, les actions sont menées en contact avec le Forum des familles d'otages. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes comme les bracelets jaunes partout en Europe et aux États-Unis. Et en fait, on échange.
Et vous êtes tous en contact.
Tout à fait. Les administrateurs de groupe, on est en contact pour partager les idées. On a fait effectivement l'action au Trocadéro avec le flamenco. Et c'était une chorégraphie de Yael Tourfeld qui a été faite sur les chansons d'Alia Rabikovic, Chouine de Veiter. C'est Dalia Rabikovic qui parle justement de l'amour, de la souffrance de l'amour. Et Sharon Sultan qui a fait effectivement, qui a dansé avec sa troupe là-bas. Et le flamenco, c'est la communauté du flamenco, c'est la danse, c'est la souffrance, c'est l'amour, c'est le languissement. Et donc ce sont des thèmes qu'on essaie justement de relier et pour élargir l'univers et les rendre présents nos otages
malgré tout. Alors justement, quels sont, quand vous faites des présentations de rue, les gens viennent vous parler et pas que la communauté, heureusement, qu'est-ce qu'on vous a dit déjà? Peut-être on vous critique ou peut-être on est avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de choses que les passants vous disent?
Et je dirais, on n'a pas rencontré effectivement une
grosse opposition.
Voilà, des grosses oppositions. Je pense justement parce que la démarche, elle n'est pas conflictuelle. C'est une démarche de dialogue.
Bien sûr.
Donc, au contraire, les gens, ils viennent, ils regardent, ça les interpelle. Et c'est justement ça ce qu'on veut faire. On ne cherche pas la confrontation. On cherche plutôt de relever le débat. Pas les débats, mais de relever effectivement les échanges.
Bien sûr.
Au sein des bracelets jaunes, d'ailleurs, notre dernière action, ça a créé une sorte de sous-communauté au sein des bracelets jaunes, c'était les tricoteuses.
C'était Place Saint-Michel.
Exactement.
Telle Pénélope, comme vous le dites, qui tricotait en attendant Ulysse. D'un coup, on a vu des personnes assises sur des chaises en train de tricoter.
Et donc, cette communauté existe toujours, elles sont toujours en train de tricoter, et je les salue d'ailleurs parce que elles le font toujours maintenant chez elles et chez eux. Il n'y a pas que des.
Non, j'ai vu, il y avait quelques messieurs, oui.
Effectivement. Et ce rassemblement d'être ensemble autour du feu, parce que la laine qui était là, ça ressemblait comme si c'était une sorte de feu, et c'était une couleur orange et jaune.
Bien
les
sûr.
Femmes et les hommes qui tricotaient effectivement autour. On avait Milena qui nous chantait pour faire passer les temps.
Alors oui, Milena Kartovski Ayash, qui a vécu en Israël et qui est israélienne et franco-israélienne, on peut dire, et qui chante merveilleusement et qui, dès qu'elle peut, vient à toutes les manifestations. Et on retrouve d'ailleurs également Milena sur Radio J le matin. Voilà.
Voilà.
J'avais envie de le dire.
Tout à fait. Tout à fait. Et voilà, on fait du travail. On a une chorale avec Laurence, que vous connaissez.
Laurence Témim, qui chante pour les otages et qui avait fait un très joli montage avec au début de la guerre, avec la Hatikva interprétée par une centaine de voix. C'était assez émouvant et assez incroyable. Laurence, chef de chœur, Laurence Témim, mais aussi militante, un peu qu'on s'est tous un peu découvert militant, faut bien dire les choses. Alors, on a envie d'essayer. Hein.
C'est un élan effectivement extraordinaire parce qu'on a beaucoup de, je sais pas si c'est militants ou activistes dans le groupe.
Militants, oui.
Voilà, militants, qui s'occupent, certains s'occupent des réseaux sociaux, d'autres de la mise en scène, etc. Je ne peux pas effectivement citer tous les noms.
Mais on salue vraiment toute l'équipe des Bracelets Jaunes. Vous êtes formidables. Alors justement. Avant de parler de vos projets à venir, si on souhaite vous rejoindre, si on souhaite vous lire, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, nous contacter par les réseaux sociaux. On est sur Twitter, Instagram et Facebook. Voilà. Oui. Nous envoyer. Déjà, pour ceux qui veulent suivre.
On écrit quoi? Les bracelets jaunes?
Les bracelets jaunes.
C'est tout. C'est tout. Tombe sur vos groupes.
Tout à fait. On peut nous contacter pour ceux qui veulent joindre nos actions pour être actives. Et ceux qui veulent tout simplement aussi être juste au courant à quel moment on fait une action, venir nous joindre. c'est affiché. On met un flyer, effectivement, sur les réseaux sociaux qui leur permet de savoir quand est-ce qu'il y a des actions.
Voilà, donc c'est très important, les bracelets jaunes. Alors maintenant, quels sont vos projets à venir d'actions auxquelles nous pourrons nous rendre ?
Alors, et donc d'abord, c'est, pour le moment, c'est, la première chose, ce n'est pas une action pour laquelle vous allez pouvoir rendre, mais vous allez pouvoir nous aider.
Ah,
voilà.
Avec plaisir.
Et on est en train de préparer pour les Yom HaShoah.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est Yom HaShoah et Agvoura.
C'est l'héroïsme aussi.
Héroïsme, exactement. Il ne faut pas oublier ça.
Bien
et
sûr.
C'est un moment qui est très fort donc, en Israël, parce que c'est le 6 mai, donc, parce que c'est dans une séquence d'une semaine dans laquelle ensuite il y a le Yom HaZikaron et le Yom HaTzmaout. Cette séquence d'une semaine est. Et donc, en fait, et, au gré des rencontres avec des personnes, et on s'est rendu compte que. Des survivants de la Shoah ou des enfants ont caché leur famille et avaient une douleur
terrible vis-à-vis des otages et donc vous allez les faire témoigner, c'est
voilà,
cela.
Ils ont besoin de parler de
ce qui se passe,
de ce qui se passe et donc nous ce qu'on souhaite c'est leur donner la parole. Donc on va créer quelques
clips
des vidéos, voilà, très courts de témoignages.
Et qu'on verra sur le jour de Yom HaShoah, sur les réseaux
sur
que
les réseaux
vous venez
qu'il faudra partager,
d'évoquer.
Enfin, qu'on souhaite que les gens partagent ensuite.
Ouais, comptez
en
sur moi, on partagera. Comptez sur nous. Les bracelets jaunes. Yaniv Nadler, bravo pour tout ce que vous faites.
Merci.
On reste en contact. Et le studio de Radio J vous est ouvert quand vous le souhaitez.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Accroche un ruban au bord de ton balcon, ce sera ta façon de dire oui ou non. Et s'il y a rhythm round the old oak tree, it's been three long years, do you still want me? If I don't see a rhythm round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us. Put the blame on me if I don't see a yellow ribbon round the old oak tree.
Radio G.
14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal. 14h-15h. À tout à l'heure.
Radio G.
Le 10-11 de Lise Goodman vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr, vous retrouverez le journal d'Eva Soto. Et à 14h, son grand journal, puisque Eva reste avec nous toute la journée. Aujourd'hui, dans le 14-15, Eva Soto recevra Sarah Eisenman de l'organisation Nous Vivrons. Et vous retrouverez aussi l'analyse politique de Mathieu Slama, ainsi que la chronique de Franck Tapiro consacré à l'antisémitisme sur les campus américains. Et il y a quoi en dire, voilà. Et puis à 15h, on retrouvera bien sûr les meilleurs moments de Cyrielle Sarah Cohen. Quant à moi, je reviens dès demain matin pour un nouveau 10-11. Alors, bonne fête, Rak Sameach, Moadim, Lesimcha pour toutes et pour tous. On continue et on continue comme tous les matins. Je remercie bien sûr Serge Surpin et toute l'équipe de réalisation technique de Radio J. Et comme tous les matins, l'espoir, on s'y accroche. Hatikva.